à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer. Tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. Et si on s'évadait un peu? Ouais, ça vous dit? Si on allait marcher un peu dans les rues d'Istanbul? Si on allait se balader le long d'un conte qui s'appelle « Le malchanceux et malchanceux ». Ça se passe dans les rues d'Istanbul. Il y a le roi et son vizir, habillés en homme du peuple, qui se promènent et regardent un peu les passants. Il s'arrête devant la boutique d'un cordonnier. Le roi s'approche de la vitre crasseuse qui sert de vitrine et voit l'homme en train de ressemeler de vieux souliers usés. Ses enfants sont assis à côté, ils sont sales, déguenillés, ratatinés par le froid. Non, franchement, c'est pas un beau spectacle à regarder. Le roi est vraiment désolé. Ouais, parce que c'est un roi qui a du cœur, figurez-vous. Alors il dit tout doucement à son vizir. Va prendre une dinde au palais. Plume-la, fais-la rôtir, et dedans, mets 100 pièces d'or. Et puis tu vas la porter au cordonnier. Lui et ses enfants pourront ainsi manger à leur faim, se laver, se vêtir. On ne peut pas les laisser dans cet état. Le roi et le vizir rentrent au palais. Ce dernier choisit la dinde la plus grasse, la fait préparer, et met les 100 pièces d'or, et la voici qu'il la porte au cordonnier. Voici une dinde que le roi t'envoie pour le déjeuner. Oh! Enfin un repas consistant qui nous permettra de reprendre des forces. Le cordonnier est fou de joie. Quand le sultan aperçoit de sa fenêtre son vizir qui revient les mains vides, il est heureux et il se dit qu'il est agréable de gagner sa place au paradis. Oui, parce que le roi, non seulement il est roi, mais en plus il voudrait être un héros. Ouais, un héros qui irait tout droit au paradis. Mais bon, revenons au cordonnier. Il est si content qu'il se met à chanter. Et à côté de son échoppe vient celle d'un tailleur. Un bon vivant. Et l'odeur de la dinde traverse la cloison qui sépare les deux boutiques et met le voisin en appétit. Une dinde rôtie, une bonne bouteille et le monde peut s'écrouler. Le cordonnier ne peut pas apprécier un mets aussi raffiné. Et d'ailleurs, comment peut-il se payer un tel repas, hein? Alors il va le trouver. Il lui dit « Je te donne 50 piastres en échange de cette dinde ». Comme ça, tu pourras acheter du pain pour nourrir tes gosses pendant une semaine entière. Le cordonnier prend les 50 piastres. Le tailleur achète une bonne bouteille et rentre chez lui. Il apprécie la dinde et il bénit la farce. 3 jours plus tard, le roi appelle son vizir. Allons voir de plus près l'état de notre population. On va en profiter pour passer devant la boutique du cordonnier et on verra comment l'argent que je lui ai donné a changé sa vie. Ils sont habillés en hommes du peuple et les voilà dans les ruelles d'Istanbul. Arrivés devant l'échoppe du cordonnier, c'est la catastrophe. Non mais rien n'a changé. C'est à désespérer. Le roi est mécontent et là, franchement, sa place au paradis est compromise. Il ordonne à son vizir de porter une oie, la plus grasse, au cordonnier et d'y mettre 200 pièces d'or cette fois. Non mais c'est sûr que le malheureux a dû profiter de son argent pour rembourser des dettes. Et là maintenant, avec 200 pièces d'or, il pourra vivre mieux et en profiter. Le vizir obéit, il apporte l'oie et les 200 pièces d'or au cordonnier. Quand il quitte l'échoppe du pauvre homme, le tailleur arrive, sans doute attiré par la fumée. Encore de la volaille? Mais je t'en donne une guinée cette fois, et puis elle est plus grosse que la première. Le cordonnier accepte. Une guinée, c'est 2 semaines de pain pour les gosses. Le tailleur rentre chez lui avec une bonne bouteille, il dévore l'oie et engloutit les 200 pièces d'or. Une semaine plus tard, le roi, vêtu en homme du peuple, passe à nouveau devant le cordonnier. Il sourit à l'idée de le voir transformé en artisan prospère grâce à sa propre générosité. Il est fier déjà, hein, il marche le torse bombé dans les ruelles d'Istanbul, il est content, il voit déjà les portes du paradis s'ouvrir devant lui. Roi, héros, les portes du paradis, il est au top. Quand il colle le nez à la vitre toujours aussi sale, il se sent défaillir. Mais pourquoi le paradis est-il si difficile à atteindre? Le cordonnier et ses enfants sont aussi maigres, crasseux, grelottants qu'au premier jour de l'histoire. Rien n'a changé. Le roi ne comprend pas. Et alors là, il s'énerve. Je vais lui faire envoyer un mouton et la troisième fois, c'est la dernière. Le mouton farci de 300 pièces d'or est livré au cordonnier. Il subit le même sort que la dinde et l'oie. Le tailleur avait pris goût à la bonne chair et à l'argent, bien sûr, vous vous doutez. Et le cordonnier, quant à lui, il a toujours rien compris. Le roi est apaisé. Le paradis lui est ouvert. Avec 600 pièces d'or, on refait un homme, on rénove une vie. Mais il veut tout de même en avoir le cœur net. Une fois de plus, vêtu en homme du peuple, il part seul vérifier le fruit de sa bonté. Et alors là, il manque de s'évanouir quand il voit le même spectacle navrant que les jours précédents. La même misère, la même saleté, la tristesse, le dénuement. Et le roi, il est fou de colère. Non mais tout cet argent pour rien ! Il rentre au palais et donne l'ordre à ses soldats d'amener le cordonnier. Quand le malheureux arrive dans la salle d'audience, le roi lui dit « Je t'ai vu là depuis plusieurs semaines avec tes enfants dans ton échoppe. Vous étiez dans une misère absolue. Moi, grand seigneur, le roi, presque un héros, j'ai voulu vous aider. Je t'ai envoyé une première fois une dinde rôtie avec 100 pièces d'or. La deuxième fois, une oie avec 200 pièces d'or et dans le mouton, il y avait 300 pièces d'or. Mais j'espérais que tu pourrais ainsi améliorer ta situation et celle de tes enfants et rien n'a changé. Tu peux me dire ce que tu as fait de cet argent ? Et comment peux-tu continuer à être aussi sale et dégoûtant ? Le malheureux raconte ce que sont devenus les trois cadeaux. Le roi fait immédiatement venir le tailleur. Quand celui-ci voit son voisin devant le roi, il se fait suppliant. « Pardonne-moi, mon roi, pour ce qui est de l'argent, le voici. Tiens, je te le rends, mais la viande, je l'ai mangée. » Le roi est fatigué de voir cette histoire se prolonger, cette histoire qui lui fait perdre son temps et ses espérances. À ce rythme-là, il n'est pas prêt d'arriver au paradis. « Bon, toi, le cordonnier, tu vas avec mon vizir dans la salle du trésor et tu prends tout ce que tu veux. Tu seras riche et tu enterreras la misère. Tes enfants pourront enfin s'habiller et profiter de leur existence. » Le roi se sent tout puissant et tellement généreux. Non mais alors là, il se prend vraiment pour un héros. La salle du trésor est tout en haut d'un immense escalier bien protégé. Le vizir monte devant, le cordonnier derrière. Une fois dans la salle du trésor, ce dernier vide sa besace et se met à prendre à pleine main des pièces d'or, des joyaux, des bijoux, des tickets resto, des places pour aller au cinéma, enfin tout. Il remplit sa besace qui devient très lourde. Le vizir referme la porte de la salle du trésor et les deux hommes redescendent, le vizir devant, le cordonnier derrière. Ce dernier a du mal à soulever sa besace, il la traîne derrière lui. Il pense déjà à toutes les choses qu'il va offrir à ses enfants, à tout ce qu'il va pouvoir acheter quand il s'en mêle les pieds et il tombe. Il dégringole jusqu'à la dernière marche, entraînant avec lui le vizir, et sa besace le suit. Le cordonnier tombe sur le vizir et le tue net. La besace atterrit sur la tête du cordonnier et le tue aussi. Résultat des courses, 2 morts. Le cordonnier et le vizir. Une éventrée, la besace, et un blessé grave, le roi, qui a, une fois de plus, perdu sa place au paradis. Et à ce jour, il ne s'en est toujours pas remis.
Voilà, je suis tombée, t'es nue, tombée depuis longtemps sans être revenue. Jamais de mon étang, cela étant. Tu vois, j'aime les pays chauds, tout comme le mauvais temps. Quelque part il fait beau, et là-bas je m'étends, cela étant. Même si ces feuilles sans fanfare, le bonheur, il faut me voir flotter sur les profondeurs. Mais c'est ça d'avoir un nénuphar dans le cœur. Les coups de cafard, on les dit avec des fleurs. On les dit avec des fleurs. Voilà, j'aime danser dans l'air, tourner avec le vent sur les eaux calmes et claires, valser tout comme avant, cela étant. Tu vois, tout ici-bas m'étonne, le monde est si brillant, même l'été monotone, l'écume des jours fuyants, c'est déjà temps, c'est c'est déjà temps. Même si ces feuilles sont fanfare, le bonheur, il faut me voir flotter sur les profondeurs. Mais c'est ça d'avoir un nénuphar dans le cœur. Les coups de cafard, on les dit avec des fleurs. On les dit avec des fleurs.
Attendez, il n'y a pas que les héros dans la vie. On va pas rester là-dessus quand même. Non, non, il n'y a pas que les gentils, il y a les méchants aussi. Alors, je vous propose d'aller faire un tour avec l'enfant de 5 ans et les voleurs. Il était une fois 3 voleurs. Le premier était très intelligent, le deuxième très fort et le troisième très agile. Ils avaient parcouru le pays, volant à droite, volant à gauche et amassant pièces d'or sur pièces d'or. Cependant, depuis un moment, ils n'avaient plus tellement confiance les uns dans les autres. Surtout depuis que leur besace était pleine. La nuit, quand ils se couchaient pour dormir, si l'un des trois bougeait dans son sommeil, les deux autres se réveillaient en sursaut en pensant « Il part avec la bourse !» À force, ils dormaient de plus en plus mal, se surveillaient du coin de l'œil sans arrêt et finalement devenaient maladroits quand ils volaient. Alors un jour, le plus intelligent dit « Ça ne peut plus durer. Il faut se séparer. Ouvrons la bourse et partageons en 3 parts égales. » Tout le monde était d'accord. Ils ouvrent la bourse, comptent les pièces, mais voilà, il y a 1000 pièces d'or. Et 1000, ça ne se partage pas en 3. Ou en tout cas, si ça se partage, ça ne tombe pas juste. Il reste une pièce d'or. Elle est pour moi, parce que je suis le plus intelligent et que c'est moi qui ai toutes les bonnes idées, dit le plus intelligent. Non mais pas du tout. Elle est pour moi. Parce que c'est moi qui sais le mieux me glisser parmi les gens et leur faire les poches, dit le plus agile. Sans moi, vous seriez encore pauvres. Vous allez voir tous les deux les coups que vous allez prendre sur la figure si vous ne me donnez pas cette pièce, dit le plus fort. Et ils se sont disputés ainsi, criant de plus en plus fort, jusqu'à ce que celui qui était le plus intelligent dise « Bon, ça suffit. Je propose qu'on reste ensemble jusqu'à ce qu'on ait économisé 1200 pièces. » 1200, ça se partage bien en 3, ça nous fera 400 pièces à chacun. Et comme on ne se fait plus confiance, voici ce que je propose. Nous n'avons qu'à aller en ville. On louera une chambre chez une logeuse et on lui confiera la bourse jusqu'à ce qu'on ait volé ce qui manque. D'accord ? D'accord. Ils ont fait comme ils ont dit. Ils ont trouvé une chambre chez une vieille femme qui vivait seule dans une grande maison. Ils se sont installés et sont allés trouver la vieille avec leur bourse. Bon. « Vieille femme, tu vois cette bourse ? Ce sont nos économies. Nous sommes des marchands, nous avons encore affaire en ville. Nous avons peur qu'on nous la vole, nous allons te la confier et tu la cacheras dans un lieu que toi seul connais. Et si l'un de nous vient tout seul pour te la demander, tu ne la donneras pas. Tu entends ? Tu ne la donneras que si on est tous les trois devant toi. Tu comprends bien, hein ? Les trois devant toi. Oui, oui, j'ai bien compris, dit la vieille. Les trois devant moi. Elle a pris la bourse et est partie la cacher dans un lieu qu'elle seule connaissait. Pendant ce temps, les voleurs sont partis en ville et se sont remis à voler, voler et encore voler. Mais voyez-vous, par là-bas, il fait chaud. Et quand on vole, vous vous en doutez, il faut courir et courir et encore courir pour ne pas se faire prendre. Et nos trois voleurs suaient et transpiraient, Et à la fin, eh bien, ils puaient. Et quand on est voleur, c'est très embêtant de puer parce qu'on vous sent de loin. Et on vous regarde juste quand vous avez les mains dans la poche de votre voisin. Et ça, c'est très très gênant, n'est-ce pas? Surtout quand on est voleur. Bon, alors nos trois voleurs décident d'aller se laver au bain public. Et puis à cette époque, il n'y avait pas de bain dans les maisons privées. Il y avait un grand bain, un peu comme une piscine si vous voulez, où on pouvait à la fois se laver, se faire masser, et frotter, et répurer, et parfumer, et tout. Et on sortait tout... amolli, rafraîchi et détendu. Bref, nos trois voleurs décident d'aller au bain public. Seulement, quand vous allez dans ces bains, vous devez apporter votre serviette. Sinon, vous pouvez la louer, mais c'est plus cher. Et nos trois voleurs ne se donnaient pas tant de mal à voler pour dépenser l'argent bêtement en louant des serviettes. On n'a qu'à aller en demander une à notre logeuse, dit le plus intelligent. Ah oui, tiens, bonne idée, disent les deux autres. Arrivé devant la maison, juste à la grille du petit jardin, le plus intelligent dit, l'air de rien. « Je vais y aller, c'est pas la peine d'entrer à trois pour demander une serviette. Attendez-moi ici. » Il entre, va trouver la vieille et lui dit. « Hé la vieille, donne-moi la bourse. »« Ah mais non, tu es tout seul. »« Mais non, regarde, ils sont juste là, dehors. Tu n'as qu'à ouvrir la fenêtre et leur demander « Est-ce qu'il faut que je la lui donne ?»« Ah bon ?» hésite la vieille. « Mais oui, vas-y !» La vieille ouvre la fenêtre et crie. « Est-ce qu'il faut que je la lui donne ?» En dehors, les deux autres, exaspérés, répondent « Mais oui, dépêche-toi !» Alors elle va dans ce lieu qu'elle seule connaît, sort la bourse, la donne au plus intelligent, qui part par la porte de derrière. Hop, ni vu, ni connu, il file avec la bourse. Pendant ce temps, les deux autres devant attendent la serviette. Ils attendent. À la fin, ils crient « Oh alors la vieille, tu fais quoi avec cette serviette? Tu la fabriques ou bien ?»« Quelle serviette ?» demande la vieille. « Mais la serviette !» trépignent les deux. « Il t'a demandé une serviette et on attend. »« Mais il ne m'a pas demandé de serviette. Il m'a demandé la bourse. »« Hein ? Et tu la lui as donnée ?»« Mais bien sûr, puisque je vous ai demandé par la fenêtre, est-ce qu'il faut que je la lui donne ? Et vous m'avez répondu oui. Mais nous, on croyait que c'était la serviette. Mais moi, je demandais pour la bourse. »« Ah mais non !» protestent les deux ensemble. « Ça va pas se passer comme ça. On t'avait bien dit les trois devant toi, et les trois devant toi, ça veut pas dire un dans la maison et les deux autres dehors. Ah ça non, la vieille. On va chez le juge. On va chez le juge. » Et la vieille, terrifiée, dut les suivre chez le juge. Ils racontent leur histoire, omettent bien évidemment de dire qu'ils sont des voleurs, mais pour le reste, disent tout en détail. Finalement, le juge trouve que, oui, la vieille femme a commis une imprudence. Elle avait promis de ne donner la bourse qu'à trois devant elle, et il ne fallait pas donner la bourse à un devant elle et deux dans le jardin. Elle était en tort. « Tu as 3 jours pour trouver de quoi rembourser, » lui dit le juge. « Revenez tous les trois dans 3 jours. » La vieille femme sort de chez le juge, écrasée par le destin. Jamais elle n'avait eu autant d'argent de sa vie. Même quand son pauvre mari était vivant, jamais il n'avait eu une somme pareille. 1000 pièces d'or. Non mais 1000 pièces d'or. À qui demander de l'aide? Non mais comment faire? Elle n'arrivait même plus à marcher, les larmes l'aveuglaient. Elle finit par s'asseoir par terre, là, sur le bord du trottoir. Elle prend sa tête dans ses mains et pleure, sans plus voir le monde autour d'elle. C'est alors qu'un petit gamin des rues, un petit mendiant, pas plus vieux que 5 ans, s'approche d'elle, met sa petite main chaude sur son épaule et lui dit tout doucement. « Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça, vieille femme ? Hein ? Ah, mais laisse-moi. Je suis malin, tu sais. Moi, je peux t'aider, peut-être. »« Mais comment pourrais-tu m'aider, toi ? Personne ne peut m'aider. Alors un gosse des rues. »« Dis toujours, » sourit le petit garçon. « Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Ça fait du bien, tu sais, de vider son cœur. Crois-moi, moi, je connais ça. » La vieille a trouvé que le gamin disait vrai. Après tout, pourquoi pas ? Ça lui ferait du bien de parler. Et elle a tout raconté à l'enfant de 5 ans. Quand il a eu bien tout écouté, le gamin s'est écrié tout joyeux. « Oh mais c'est facile! C'est facile! Je sais moi ce qu'il faut dire au juge dans 3 jours. Écoute-moi bien. Tu n'as rien à faire qu'à attendre tranquillement le 3e jour sans rien faire. Tu iras chez le juge et quand il t'interrogera, tu lui répondras. » Le petit garçon de 5 ans se pencha tout contre l'oreille de la vieille femme et lui souffla la réponse. Immédiatement, le visage de la vieille s'apaisa. Elle embrassa très fort le gamin, l'appela mon petit sauveur et rentra chez elle toute tranquille en se promenant le sourire aux lèvres. Vous qui écoutez cette histoire, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à votre tour. Que faut-il dire au juge dans 3 jours pour être délivré de ce problème à coup sûr? Hein? Que faut-il dire? Ben non. Si vous répondez « Elle n'a qu'à dire qu'ils sont des voleurs », je vous rappelle qu'elle n'en sait rien et le juge non plus. Il n'y a que vous qui écoutez cette histoire qui le savez, et moi bien sûr qui la raconte. Non, c'est autre chose. C'est plus simple. Réfléchissez encore un peu et... Allez, je vous donne la réponse. Les 3 jours passent et la vieille et les voleurs se retrouvent à leur rendez-vous chez le juge. « Alors, as-tu apporté de quoi rembourser ?» lui demande celui-ci. Et la vieille récite par cœur ce que lui a soufflé le petit garçon de 5 ans. « Oh, juge, j'ai la bourse, je l'ai, mais j'ai promis de ne la donner qu'à 3 devant moi, et là, je n'en vois que 2. Qu'ils aillent donc chercher le 3e et je donnerai la bourse. » Le juge éclata d'un rire plein d'admiration devant l'intelligence de cette répartie et demanda « Mais pourquoi ne m'as-tu pas répondu cela tout de suite il y a 3 jours ?»« Ah !» répondit la vieille avec un sourire modeste. « Je n'aurais jamais pu trouver cela toute seule. On m'a aidée. »« Ah bon? Mais qui t'a aidée ?»« Juge, tu ne me croiras pas sans doute, mais c'est un petit mendiant des rues, pas plus vieux que 5 ans. »« 5 ans ? Et va me chercher cet enfant !» dit le juge. La vieille courut dans la rue et retrouva le gamin à sa place habituelle. Car vous savez, les petits mendiants, ici, ont tous leur territoire bien délimité et c'est facile de les retrouver. La vieille demanda donc à l'enfant de la suivre chez le juge. Et on dit que le juge interrogea l'enfant, le fit parler et, impressionné par tant d'intelligence chez un si jeune enfant, le garda auprès de lui. Et l'histoire ajoute que lorsque le juge avait une affaire très difficile à juger, il faisait une interruption de séance, allait dans la pièce d'à côté et lorsqu'il revenait, il avait toujours la solution. C'était l'émission Compte-gouttes enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.